Saint-Gilles, la drave sur la rivière Beau-Rivage. M'en vous conter ce qui m'est arrivé dans mon bas âge. J'avais 14-15 ans dans ce temps-là. La drave était prise dans un coude de la Beau-Rivage. On avait espérance de draver dans l'été. J'avais bien hâte à ma première drave. Mais l'eau de la rivière n'est pas montée. Ça fait que tout le bois était encore là quand l'automne est venu. Avant l'hiver, la compagnie a décidé de faire haler le bois de la rivière et de le corder au sec et en sécurité pour pas que l'eau l'emporte au printemps. Un nommé William Flamand, connu par plusieurs dans le coin de Saint-Gilles, avait jobé un bout. Moi puis mon père, on travaillait pour lui. Mon père était fort et il avait de l'expérience. Il gagnait une pièce par jour. Puis moi, je recevais 50 cents. J'étais jeune. J'avais 14 ans, j'étais pas bien robuste encore, mais j'avais du nerf et de l'énergie. Cet automne-là, v'là-tu pas que j'ai attrapé une sorte de pleurésie à force de me mouiller dans l'eau frette pour aller chercher les bio. J'ai fini la job de peine et de misère, je vous dis. Puis après ce contrat-là, il m'est toujours resté comme un point dans le côté. J'étais bien découragé de ça. Ça m'empêchait de travailler et de faire ma besogne. J'avais même de la misère à me coucher sur mon côté. J'en menais pas large. Un bon soir, un bon quêteux est arrivé chez nous. Un nommé Léon, comme moi. C'était facile à se rappeler. Mes parents l'ont installé, comme de convenance, sur le banc, près de l'entrée. Il était bien dadon. Ça fait que je me suis mis à y parler de mon mal pendant que le père et mes frères étaient à l'étable. J'y racontais mon malheur. Ben, il dit, j'ai justement le remède pour toi. Ben, je voulais pas qu'il se fende en quatre pour moi, mais ça m'intriguait de savoir si sa médecine allait me guérir. Ça fait qu'il est parti à travers champs et forêts, et il est revenu avec des mauvaises herbes et des substances écœurantes dans sa besace. Il a tossé la mère de son poêle et il a commencé à fabriquer une potion qui sentait le diable. La laine du grand-père sentait la rose à côté de ça, je vous dis. Après trois quarts d'heure de décoction, il m'a fait coucher sur la table, puis il m'a beurré de cette emplâtre-là. Une sorte de gomme noire, un tapis bien ciré qui m'a mis dessus. Je vous dis, c'était toute qu'une affaire. Ma mère rouspétait, faisait des grimaces, elle voulait pas qu'il salisse la table. Moi, je me demandais comment j'allais faire pour décoller cette écœurenterie-là. Une chance que j'étais pas trop poilu dans ce temps-là. Finalement, bien sérieux, le quêteux m'a dit « Mets l'emplâtre soir et matin pendant deux jours, puis tu vas être couché sur ton côté et respirer comme faut en moins de deux. » Le lendemain, il a demandé à manger, remercié le père et il est parti en me rappelant sa consigne. Comme de fait, j'ai écouté ce qu'il m'a dit. Ah, je sais pas si j'avais confiance, mais je me suis dit que j'avais rien à perdre. Puis imaginez quoi? Ça m'a guéri. Et le mal de poumon n'est jamais revenu. Je touche du bois en vous disant ça. J'ai jamais revu ce quêteux-là, Léon qui s'appelait. J'ai jamais pu le remercier de m'avoir enlevé mon mal. En fait, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui en vous contant cette histoire-là. Conté par Léon Jolicoeur, Saint-Gilles, né en 1892. Archives de folklore de l'Université Laval, collection André Bilodeau, adapté par Véronique Desrochers. Saint-Narcisse de Beau-Rivage. La chasse-galerie pour chasser l'ennui. De nos jours, tout le monde reconnaît le dynamisme agricole de Saint-Narcisse de Beau-Rivage, dont les terres sont fertiles et les agriculteurs prospèrent. Il n'en fut pas toujours ainsi, cependant. Autour des années 1880, comme l'argent se faisait bien rare sur les terres fraîchement défrichées, les agriculteurs peinaient à joindre les deux bouts avec leur grosse famille de 10 à 16 enfants. Les hommes partirent donc faire les chantiers dans les montagnes blanches du Vermont, au sud des Appalaches. Deux contremaîtres du coin, Thomas Blainey et Pierre Kidhart, les accompagnaient. Après 1917, l'accès aux États-Unis étant limité, on opta pour l'Abitibi ou le nord de l'Ontario. Dans ces chantiers, les hommes pouvaient gagner 20 $ par mois, parfois même 50 s'ils conduisaient deux paires de chevaux. Cependant, il était également possible de travailler tout près, au camp de bûcheron d'Alfred Belland dans la seigneurie Ross. On s'y rendait par la route de Sainte-Agathe. La première année, il fallut construire un camp en bois rond que l'on isola avec de la mousse ramassée sur les terres spongieuses. C'était tout un régal pour les rongeurs, petits et grands. C'est là que se trouvait également la couquerie, cuisine, de même que la cache où l'on entreposait les vivres du camp. Dans ces lieux isolés, comme les camps de bûcherons, aussi bien que les villages semés au bord du fleuve, la parole du conteur était souvent, avec le son du violon, le seul divertissement. La légende préférée dans les camps de bûcherons, c'était bien sûr la chasse-galerie. Elle prenait son envol en ces lieux isolés et mettait en scène l'histoire de ces vaillants travailleurs des bois. En désespoir de cause, ils faisaient un pacte avec le diable afin de retrouver leur fiancée dans leur village le soir de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire le 31 décembre, la veille du jour de l'an. Le nom même du village le plus au sud de Lotbinière et du diocèse de Québec, un nom inspiré du dernier saint du calendrier liturgique. C'est ainsi que les bûcherons parcouraient le ciel, du camp jusqu'au village, dans un grand canot d'écorce. Mais laissons la légende parler d'elle-même. À peine avait-on prononcé les dernières paroles dictées par notre étrange guide, que le canot d'écorce s'éleva dans les airs, à une hauteur de 500 ou 600 pieds. Au commandement de Baptiste, on commença à ramer comme des possédés qu'on était. Au premier coup d'aviron, notre embarcation s'élança dans la nuit, comme une flèche. On allait tellement vite que ça nous en coupait le souffle, et le poêle en frisait sur nos castes de chats sauvages. Pendant un quart d'heure environ, on navigua au-dessus de la forêt, sans apercevoir autre chose que les bouquets des grands pins noirs. On filait plus vite que le vent. Enfin arrivé au village, on s'amusa comme des petits fous et on dansa au son endiablé du violon. Mais comme convenu, il fallait retourner au campement avant que le jour ne se lève. Regagnant le canot, on prononça la formule magique à contre-cœur, afin de s'envoler dans le ciel et retrouver notre labeur routinier. Malgré tout, la nuit était superbe et la pleine lune illuminait le firmament comme un beau soleil de midi. Il faisait un froid du tonnerre, nos moustaches étaient couvertes de givre, bien qu'on fût tout en sueur. Comme on avait bu un peu trop de caribou et qu'on n'avait pas d'expérience de conduite de la chasse-galerie, le canot zigzaguait et tournoyait dangereusement. Arriva donc ce qui devait arriver. Le canot frappa de plein fouet une grosse épinette et tout le monde dégringola. Heureusement, la neige épaisse adoucit notre chute et, à part quelques égratignures, on s'en tira tous à bon compte. On n'était pas très loin du camp, on put donc terminer le trajet à pied. On jura tous qu'on ne nous y reprendrait plus jamais, jusqu'à la prochaine fois. On ne saura jamais si un canot d'écorce s'est réellement envolé de la seigneurie Ross, mais on peut toujours se l'imaginer. Source: Saint-Narcisse de Beaurivage, 1872-1972, et Légende de la chasse-galerie, publiée pour la première fois par Honoré Beaugrand.